Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas, au 31 Place de la Madeleine à Paris. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vin et les restos du cœur, le poids d'un millésime en appellation Bordeaux simple, les Côtes de Beaune Village, nous sommes en Bourgogne, ainsi que le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, David Cobol et Philippe Orbach. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ainsi
bonjour.
Que Laure Gasparotto qui nous rejoint pour la première fois de 2020. Bonjour Laure, et puis alors tout nouveau de bonheur pour cette belle année, quoi. Vous avez un message adressé aux auditeurs d'Invino Sud Radio pour leur dire, je ne sais pas, que vous les aimez, que vous aimez le vin?
Bonjour Alain. Oui, je les aime, je vous aime. C'est ma déclaration de ce début d'année. Non, mais gardons toujours la curiosité. Soyons toujours
ouverts, curieux.
Et sans a priori.
Oui, c'est ça, c'est très important. Quoi.
Sans a priori.
Merci en tout cas, vous restez avec nous pendant toute l'émission. Laure, pour bien commencer cette émission, notre deuxième invité, hier on a eu le premier, de Invino Sud Radio, Hélène Pio, vous qui dirigez la rubrique, hein, une rubrique au magazine Régal. On reçoit Olivier Bernard par téléphone. Bonjour Olivier Bernard.
Bonjour, bonjour.
Alors Olivier Bernard, c'est notamment le domaine de Chevalier, l'une des stars du Bordelais. Vous avez une chance de dingue Olivier, hein. Vous vivez en plein cœur de l'appellation Pessac-Léognan, dans un lieu béni des dieux et des druides.
Un lieu qu'Olivier, vous avez coutume d'appeler un jardin secret dans les graves, et qui depuis 1865 n'est plus vraiment si secret que ça. Vous en êtes le quatrième propriétaire depuis que votre famille l'a racheté en 1983. Vous avez tout laissé en état, donc peut-être pas, hein, c'est pas votre genre.
Non, c'est pas mon genre, mais j'ai quand même vinifié plus de 35 millésimes ici, donc ça commence à compter. Quand je suis arrivé ici en 83, j'avais 23 ans. Et quand on fait son premier vin à 23 ans, on est un gamin. Voilà. Et 35 ans plus tard, avant, j'étais toujours dans les plus jeunes. Là, je commence à être un peu dans les plus vieux. Donc, pas encore.
Alors, vous êtes le plus jeune des plus vieux, là, maintenant, Olivier.
C'est ça. C'est dans ma tête que. Et alors, ce qui m'a fait très plaisir, tiens, j'ai rencontré Marcel Guigal là, le week-end dernier.
Ah, génial.
Et Marcel me disait qu'à 80 ans, ce qu'il avait envie de faire, c'était du vin.
Ah ben voilà.
Et il y a des gens comme Aubert de Vilaine, il y a des gens comme ça en France qui sont des grands viticulteurs et qui, à 80 ans, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est du vin.
C'est
et
beau,
ça, j'adore ça.
Ça nous laisse bon espoir.
Combien d'hectares aujourd'hui sur le domaine, Olivier? Vous avez combien d'hectares?
Alors,
en total, tout domaine confondu.
En 83, quand ma famille a racheté en 83, il y avait 18 hectares. On a vinifié 200 l'année dernière. Alors bien sûr, au domaine de Chevalier, il y a une soixantaine d'hectares aujourd'hui. Il y a le domaine de la Solitude qu'on a repris en 93, qui fait une petite quarantaine d'hectares. Il y a le château Lespeau-Martillac, qui est un petit bijou juste à côté, avec des vieux merlots magnifiques. Un petit bijou que je bichonne tous les matins. Et puis, un scoop, parce que on a signé en fin d'année un fermage de 25 ans avec une propriété qui s'appelle Poumeil, qui est un petit cru qui est à Gradignan et qui appartient à la commune de Gradignan et qui nous a été confié pour les 25 prochaines années.
Bravo, bravo Olivier.
Les gens ont confiance en nous. Voilà.
Ça va vous faire combien de bouteilles, ça, aux prochaines vendanges?
Alors, sur Pessac-Léognan, eh ben, on va avoir 120 hectares et puis il y en a 60... que l'on a commencé en 2011 sur un très joli sujet qui s'appelle le Clos des Lunes, qui est un vin blanc sec à Sauternes. Donc on a acheté ou repris une soixantaine d'hectares sur les cinq grandes communes de village, sur les cinq villages de Sauternes, et on y produit à peu près 300 000 bouteilles de vin. Donc au total, aujourd'hui, on fait à peu près 1 million de bouteilles, voilà, sur nos 200 hectares.
Ouais, ça demande un petit peu de boulot,
sur
effectivement.
Sur 24 étiquettes différentes, donc c'est.
Et après, il faut les vendre aussi après quand même.
Il faut gérer.
Mais. Oui, mais l'avantage, c'est que quand on a 24 étiquettes avec des vins de 5 euros à 100 euros, on va dire, il y a toujours un client, un magasin, un distributeur, un importateur qui est intéressé par un de vos produits. Et on rentre avec... l'effet de gamme est très intéressant. Très, très intéressant. Et puis, il y a des marchés sur lesquels on va travailler sur des vins un peu d'entrée de gamme ou des vins de consommation, on va dire ça comme ça. Et puis, d'autres sur lesquels on est plus sur une notion de grand cru. Et moi, ma philosophie, c'est de produire du grand vin et si possible de le vendre au bon prix. Et je suis très attaché à ce que mes clients achètent mon vin avec un sourire. Voilà. Et à Bordeaux, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et donc, je suis toujours attaché à faire le plus grand vin possible, mais essayer de le vendre à un prix qui soit acceptable.
Raisonnable.
Voilà. Il faut surtout qu'ils aient le sourire la deuxième fois qu'ils l'achètent.
Oui, c'est ça.
Parce que la première, c'est facile, ils l'ont pas goûté encore. Mais là, c'est la deuxième qui est importante.
Oui, mais quand ils achètent une bouteille de Solitude, ou quand ils achètent une bouteille de Clos des Lunes, ou quand ils achètent une bouteille de Domaine de Chevalier en primeur, je crois qu'ils le font déjà avec le sourire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Après, il y a quand même quelques années de boulot,
quand
Olivier.
Quand ils le regoutent quelques années plus tard, s'ils ont un deuxième sourire, ça, c'est encore un plaisir supplémentaire.
Hélène ?
Alors, je voudrais qu'on se concentre sur le vaisseau amiral, le domaine de Chevalier. C'est effectivement votre fleuron. Et puis, vous parlez de toute une gamme. Les gens connaissent bien le domaine de Chevalier. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'esprit de Chevalier, votre second vin, que vous avez créé, je crois, à la fin des années 80, c'est ça ?
Oui, premier millésime 89. On en avait déjà fait un peu en 88, mais enfin bref, c'est l'histoire serait un peu longue. Mais premier millésime portant la marque Esprit de Chevalier, c'est 89.
Et là, on est sur des vins à 26 euros et on est sur des Pessac Léognan qui apportent un grand, grand plaisir.
Oui, ça, c'est des prix.
C'est des vrais vins de restaurant.
Par exemple, chez Nicolas, par exemple. On peut les trouver entre 20 et 26 euros suivant les endroits où on va les acheter.
Donc, c'est quand même très raisonnable. Le potentiel de garde, Olivier, c'est-à-dire que sur un millésime récent, l'Esprit de Chevalier peut se garder aussi bien que le domaine ?
Non. C'est pas ça qu'on lui demande, d'ailleurs. Mais un Esprit de Chevalier sur un grand millésime comme 2016, j'ai envie de dire entre 5 et 10 ans. Et puis peut-être qu'en 2017, d'aller ouvrir un 2017, là aujourd'hui en 2020, ça commence à être l'heure. On a quelques années devant soi. Donc entre 5 et 10 ans pour les grands millésimes et entre 3 et 10 ans pour des millésimes un petit peu plus faciles d'approche.
Pour terminer, Olivier, il y a un élément important.
Et j'insisterai sur les blancs parce qu'on fait des blancs extraordinaires, notamment sur les esprits de chevalier. Et là aussi, ne pas oublier de les garder 5 à 10 ans parce que ces grands vins blancs de Bordeaux ont besoin de temps.
Il n'y a pas que les rouges à Bordeaux. Pour terminer, Olivier, pour garder des vins longtemps, il y a aussi une problématique qui est liée au bouchage. Vous travaillez comment, vous ?
J'ai commencé il y a plus de 10 ans avec des bouchons techniques, notamment Diam, à faire des essais. Et nos esprits de chevalier sont passés depuis le millésime 2012 en Diam. Et nous avons, sur le millésime 2015, nous avons également passé nos grands vins chevalier blanc, puis chevalier rouge. En bouchon technique.
Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ?
Alors, je dis souvent, les bons vins donnent du plaisir, les grands vins donnent de l'émotion. Et si je pouvais avoir plein de grandes bouteilles à boire
avec modération. Merci Hélène Piau, merci également à vous Olivier Bernard. Une vidéo studio radio retrouve l'élégante Laure Gasparotto avec une très jolie histoire aujourd'hui.
Oui, je me suis intéressée à cette association Douce de Cœur qui a été créée en 2015 par Pierre-Henri Gaget, dont il est le président. Pierre-Henri Gaget qui dirige aujourd'hui la maison Louis Jadot à Beaune, la maison de négoce. Et avec quelques amis à lui, il a voulu partager la chance qu'il avait dans le vignoble, c'est-à-dire d'avoir une famille depuis longtemps, d'avoir un héritage, un patrimoine. Et avec Aubert de Villene, gérant de la Romanée Conti, co-gérant de la Romanée Conti, Jean-Pierre Perrin du château de Beaucastel, Jean-François Mouex du château Pétrus, entre
autres. Que des stars.
Jean-Claude Rouzeau de Roderer, Michel Boss. Voilà, ensemble, ils se sont dit rassemblons des bouteilles et vendons-les aux enchères et donnons le produit de ces enchères à l'association
Les
Restos du Cœur, donc qui sont dirigés aujourd'hui par le fils de Coluche, Romain Colucci, que j'ai rencontré d'ailleurs, et avec le président des Restos du Cœur, Patrice Blanc, qui a eu l'aval de Véronique Colucci un peu avant sa mort il y a un an. Et donc, en 2015, ils créent cette association. Ils arrivent à regrouper 102 domaines qui comptent beaucoup en France, hein, des très, très jolis domaines, qui, grâce à Ficofi, qui est une entreprise qui met en relation des domaines et des collectionneurs...
De vente de vins.
Donc, ils ont créé deux premières ventes des vins à Hong Kong, l'année dernière et l'année d'avant pour faire ses ventes aux enchères. Et ils ont récolté énormément d'argent, plus €1,130,000 la première année, qu'ils ont distribué donc, pour une association chinoise, puisque la première vente était en Chine. Cette association chinoise, c'est Teach for China, qui concerne des enfants à scolariser. Et donc, la deuxième association, ce sont les Restos du Cœur. Et donc, depuis 2 ans, les Restos du Cœur reçoivent 800 000 euros de cette association 12 de cœur. C'est énorme.
Et comment on peut faire alors on peut en gérer, on peut les aider, comment on peut faire?
Alors la prochaine vente aux enchères aura lieu à Versailles en France à la fin du mois de cette année,
à la fin
2020. Donc on peut se renseigner
Et surenchérir et les aider.
Mais j'ai demandé à Romain Colucci, qu'est-ce que représente pour vous 800 000 euros?
Bonne question.
Eh bien, il m'a dit 800 000 repas. Et combien de repas sont-ils distribués par an par l'association Les Restos du Cœur? Alors là, j'étais vraiment très sous l'eau, parce que j'avais dit 200 000, mais j'étais très 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 loin de la réalité, puisque c'est 130 millions de repas qui sont distribués chaque année. Et donc voilà, je trouvais que cette initiative de la viticulture, qui est souvent mal comprise en France, était honorable et qu'il fallait que nous en parlions, que nous partagions, que nous prenions conscience aussi de ça, puisque tous les jours nous parlons de vin, d'une boisson esthétique, culturelle, et qui n'est pas forcément utile dans notre alimentation quotidienne. Mais
il y a aussi des choses bien qui sont réalisées par les acteurs du vin. Quoi. Vous nous rappelez donc, si on veut en savoir plus, il y a un site internet, une adresse peut-être pour...
Non, il n'y a pas de site internet. Pour l'instant, c'est assez privé quand même.
Assez privé, d'accord.
Donc... C'est vraiment Ficofi, ce sont les clients de Ficofi qui sont des clients très riches, qui
achètent,
contactés
quoi.
Directement par Ficofi, oui, qui sont au courant de cette vente aux enchères, puisque ce sont quand même des bouteilles... très très cher, hein. Il s'agit de Petrus, de Romani Conti,
mais au profit d'une bonne action, une très bonne action. Merci beaucoup Laure, merci également à vous tous et bravo pour cette belle action de l'ensemble des collégiales, des grands vignerons français. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris pour le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Piau. Et le Vino Quiz, Hélène.
Oui, Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le livre In Clima Veritas de Youri Lebeau. Voici la question de ce week-end. En quelle année Pascaline Lepelletier a-t-elle remporté le titre de meilleure sommelière de France? Réponse A, 2015. Réponse B, 2018. Ou réponse C, 1992, quand elle était à la crèche. Elle est vraiment très brillante, cette jeune femme. Pour répondre et gagner le livre In Clima Veritas de Youri Lebeau, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Hélène. Vidéo Studio Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour sous-peser le poids d'un millésime en appellation Bordeaux-Simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le grand écart à Bordeaux. Il y a des grands, comme le domaine de Chevalier dont on a parlé tout à l'heure, et d'autres plus modestes, et l'impact du millésime est différent?
Alors, je dirais oui, pour des raisons purement économiques. Il ne faut pas oublier que la région bordelaise est un climat océanique, atlantique, donc assujetté à des variations assez importantes en matière de soleil, d'humidité, etc. Donc, on a des vrais écarts dans les millésimes. Alors, lorsqu'on vend 120 à 50 euros, à 100 euros, que sais-je, on a les moyens quand même de faire un tri très sévère à la vigne, à la réception au chai, et puis dans la vinification, on a des moyens pour limiter les dégâts dans des années difficiles. Lorsqu'on vend 120 à moins de 10 euros, parce que je rappelle tout de même que plus de 50%, c'est 55% exactement, des vins de Bordeaux sont vendus à moins de 10 euros. C'est les appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur, blanc, rouge ou rosé en blanc, plus les crémants de Bordeaux, tout ça, c'est 55%
de Bordeaux. Donc David, vous vous rappelez que quand on pense Bordeaux, on pense souvent parfois à vin cher. Oui, mais pas que.
Surtout pas, d'ailleurs. Parce que les crus classés ou leurs équivalents, c'est 5 à 10%. Si on élargit un peu, c'est au maximum 10% de la production bordelaise dans son ensemble. Donc je dis que dans les bonnes années, chez les bons vignerons, les rapports qualité-prix dans les appellations Bordeaux-Bordeaux supérieur sont parmi les meilleurs rapports qualité-prix en France. Je pèse mes mots, c'est clair. On trouve peu de vins collectivement et massivement aussi bons. Après, il y a un impact plus fort des millésimes dites compliqués, parce que c'est une manière politiquement correcte pour
lesquels, dire... par exemple, David, récent.
Je vais citer l'exemple d'un millésime récent que j'ai goûté en Bordeaux, Bordeaux supérieur, qui est 2017.
Ça, alors, c'est compliqué.
Oui, c'était une année compliquée. Je vais lire quand même ce que la faculté d'œnologie a dit de ce millésime. C'est illustratif, je trouve. Si la réputation de Bordeaux et le goût inimitable des vins, donc bon, ok, politiquement correct, qui y sont produits, tiennent en partie à la situation géographique de son vignoble, le millésime 17 nous rappelle durement les risques associés à la viticulture. Année de gel. Cette année restera en effet dans les mémoires en raison du gel de fin avril qui a anéanti presque la moitié de la récolte bordelaise. Donc il ne restait pas grand-chose pour certains. Comme souvent, les dégâts furent aussi importants qu'inégaux, épargnant les appellations entières, or que certains crus ne produisent, pour ainsi dire, pas de vin en 2017. Dans ce contexte, il est assez illusoire de rédiger une note décrivant chaque cas particulier tant la situation est hétérogène. Un peu plus loin, ils disent « Une des caractéristiques des raisins rouges de 2017 est sûrement leur teneur élevée en acide malique, conjuguée à un potentiel tannique plus faible qu'à l'accoutumée. » Donc, autrement dit, on a des vins en 2017, majoritairement très acides et pas mûrs phénoliquement, c'est-à-dire des tanins pas mûrs. Alors, quand on vinifie avec du Merlot ou du Cabernet Sauvignon, ces deux cépages tanniques, si les tanins ne sont pas mûrs, le vin
n'est pas bon.
C'est pas bon. C'est vert, c'est végétal, c'est désagréable. Donc j'avais reçu, chaque année je participe en général, mais cette année je ne l'ai pas fait, une sélection d'un jury collectif, je crois qu'Hélène a participé, Laure certainement, Philippe peut-être, qui s'appelle les Talents de Bordeaux,
ouais.
Où les appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur proposent une quarantaine de vins à un parterre de professionnels du vin, auxquels ils ont ajouté des dégustateurs amateurs issus des grandes écoles, des clubs œnologiques de grandes écoles. Bon, ils ont sélectionné dans le 17, 12 vins pour porter le nom Talents de Bordeaux, si Bordeaux supérieur, si Bordeaux simple.
Et les vins sont bons, David ?
Eh bien non. Pas tous. Certains
ça,
sont bons
fait.
Et d'autres moins. Ouais. Et moi, j'ai reçu la caisse parce que je n'ai pas pu participer cette année. Donc, j'ai demandé la caisse des talents pour faire ma sélection. Mais la moitié sont bons et la moitié ne sont pas bons.
Ce n'est pas terrible comme score,
non,
ça.
Non,
hein.
mais c'est mieux qu'à Saint-Nicolas de Bourgogne hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui,
où je n'avais que 3 sur 12. Là.
Vous êtes difficile en ce début d'année. Non, il y a un problème,
faut,
le réveillon, le 31,
être,
là, vous avez mal dormi, non ?
Il faut être honnête et il faut aussi nommer les bons. Parce que si certains font bon, pourquoi les autres ne
bien
font
sûr,
pas bon ? C'est une question à se poser sur le même millésime. Et là, le millésime, la matière première, était à la base la même. Bien sûr, la situation du vignoble peut varier beaucoup, comme l'a dit l'Institut œnologique de Bordeaux. Donc, j'appelle les bons, quand même, parce que c'est souvent les mêmes qui sortent. Hein. C'est quand même intéressant. Le vin, c'est fait par le vigneron. C'est pas fait par l'année entièrement, même si l'année a un énorme impact, ni par l'appellation. C'est le vigneron. La Motte Vincent, 6 euros, quand même.
Ah oui.
Très bon. Château La Motte, même propriétaire, 6 euros. Château La Rame, 8 euros. Voilà, pour les Bordeaux simples. Bordeaux supérieur, Château Turco, cuve majeure, un peu boisé, mais très bon, à 10 euros. Pays-la-Tour, qui appartient à Dourte CVBG, réserve 12 euros. Et Château-Pénin, lui, il sort presque chaque année avec une de ses cuvées, Les Cailloux, c'est le plus cher, 14,50, mais c'était aussi le meilleur. Donc je trouve que là, la patte du vigneron, c'est quand même, il faut toujours acheter le vigneron et pas l'appellation.
Et ça, c'est important.
Et c'est d'autant plus vrai dans les années dites difficiles, parce que c'est là où on sent que le gars a travaillé, ou la femme, peu importe, enfin, la personne a travaillé soigneusement, a fait le tri, a sélectionné, a attendu...
Pour arriver à trouver la quintessence.
A trouvé une fenêtre pour récolter dans une année difficile. Et peut-être aussi a été un peu mieux épargné que d'autres que par le millésime, parce que n'oublions pas que le produit du vin, c'est un produit agricole assujetté à la météo. Il ne faut jamais l'oublier.
Il y a une vraie variable. Et ça, David, pour terminer, ce 2017 qui est plutôt réussi, dont vous parlez, on peut les attendre ou alors ça restera selon vous hein,
oui.
Des vins à boire quand même rapidement.
Alors, on est surpris par la capacité de garde de ces appellations dites modestes. Parce que moi, j'ai ouvert cet été un Bordeaux supérieur de 2001 qui était absolument magnifique.
Oui.
C'était Château Parenchère, cuvée Gazignol, cuvée Raphaël, du nom du fondateur du domaine. qui a vendu depuis, et c'était extraordinaire à 20
donc,
ans.
Oui, en plus, ça peut se garder. Quoi.
Et ouais. Ça peut se garder dans les bonnes années.
Merci beaucoup, David Cobold. Invino Sud Radio retrouve Philippe Forbach, président de la sommellerie française, pour un périple. On va en Bourgogne aujourd'hui. Hein. C'est pareil, avec un beau rapport qui a été pris. Hein,
oui, en Bourgogne, avec une appellation qui s'appelle Côte de Bonne Village. Alors, c'est une appellation un peu confidentielle. Comme on peut l'imaginer, Côte de Bonne Village, ça vient de la Côte de Bonne, donc au sud de la Côte de Nuit. C'est une région, c'est une appellation, pardon, qui concerne que les vins rouges, donc issus de Pinot Noir exclusivement. Et il y a quelques petites particularités intéressantes. D'abord, il faut parler de l'appellation Côte de Bonne qui existe, qui peut être associée soit à un certain nombre de villages comme Ladoix, Savigny, Haussé-Durès ont le droit de rajouter Côte de Bonne sur leur étiquette. Ensuite, ils peuvent aussi, globalement, toutes les autres appellations peuvent revendiquer ou être en tout cas on dit déclassées ou classées en Côte de Bonne tout court. C'est-à-dire, dans la hiérarchie, ils peuvent revendiquer cette appellation qui est un peu plus générique, ce qu'on appelle une sous-régionale. C'est parfois un petit peu compliqué, mais c'est une sorte de hiérarchisation qui fait que si on peut le plus, on peut le moins. Et donc, on peut finalement avoir une appellation de repli. C'est le cas pour tous les vins donc, de ce secteur-là. Mais l'appellation Côte de Bonne Village, exclusivement, elle est limitée à quelques parcelles qui, du coup, ont droit à une spécificité particulière. Alors, qu'est-ce qui différencie la Côte de Bonne par rapport à la Côte de Nuit ? C'est plus au sud, l'exposition est quasiment la même. Géologiquement parlant, on pourrait penser que c'est le prolongement sud, mais la Côte de Bonne est un massif un peu plus récent que la Côte de Nuit, en termes de géologie. Pourtant, c'est pas très loin. Et puis, l'altitude est effectivement un petit peu moins élevée dans la Côte de Bonne que dans la Côte de Nuit. Donc, les vins, effectivement, sont d'altitude un peu différente, ce qui donne des profils aromatiques un peu plus tendres, si on veut, dans la Côte de Bonne par rapport à la Côte de Nuit. Et puis, la pente également des coteaux est moins pentue en Côte de Bonne qu'en Côte de Nuit. Donc là, également, ça joue sur le style des vins. L'appellation, donc je disais, est un peu confidentielle parce que si, je ne sais pas si beaucoup autour de la table ou ceux qui nous écoutent ont déjà bu des Côte de Bonne Village, mais c'est assez rare.
Pas très souvent.
C'est assez rare. Et ce sont des vins qui sont pourtant très bons, qui sont de rapport qualité-prix assez intéressant, parce que même s'il y en a peu, finalement, c'est une appellation qui est finalement peu revendiquée, peu commercialisée. Et quelque part, on a des vins autour d'une vingtaine d'euros, ce qui pour des rouges de Bourgogne. Et reste quand même très accessible.
La nuance est importante pour les vins de Bourgogne.
Oui, mais c'est pour ça que je le précise, mon cher David Cobold. Les vins sont souvent très fruités. Alors, on a le côté classique de la griotte, etc. On trouve souvent la violette, qui est un des marqueurs aromatiques du pinot, mais qu'on trouve en particulier dans ces styles de vins. Il y a souvent beaucoup de fraîcheur, notamment ceux qui sont un peu plus en altitude. Et ça se boit plutôt jeune, franchement. Là, actuellement, on se fait déjà extrêmement plaisir, même avec les 2018. Ça paraît presque un infanticide, mais c'est juste une gourmandise absolue. Le 2017, on a évoqué ce millésime pour le Bordelais, on peut l'évoquer pour ailleurs, c'est un millésime un peu plus compliqué.
Donc il est plus compliqué en Bourgogne, oui, je vais dire. Aussi, même problématique aussi, que celle évoquée par David pour le Bordelais.
Ce n'est pas évident. Comme millésime, là aussi, les vignerons, les négociants, parce qu'il y a beaucoup de négociants finalement qui revendiquent cette appellation. Ça dépend de la patte du vigneron ou de l'éleveur. Mais globalement, c'est un millésime qui est un peu plus difficile. Par contre, sur 2016 ou 2015...
Là, on se régale, quoi.
Bah, c'est un vrai plaisir, quoi, je veux dire. Vraiment.
Laure ?
Oui, récemment, justement, j'ai goûté un 2007.
2007,
un 2007 de chez Emmanuel Giboulot, une Côte de Beaune, la Grande Châtelaine.
Oui.
Je ne sais pas si vous connaissiez, Philippe.
J'ai eu l'occasion de goûter. Pas ce millésime-là, mais j'ai goûté...
En fait, il y avait encore cette délicatesse que j'aime beaucoup dans ces rouges de Côte de Beaune. Et je ne dis pas que tous les millésimes valent la peine d'être attendus.
Mais celui-ci, mais chez ce vigneron, c'était remarquable.
C'était une
quoi.
Très belle surprise.
Mais l'une des vertus, c'est justement de pouvoir se goûter jeune, parce qu'il y a un fruité extraordinaire. Et finalement, dans les millésimes récents, qui sont un peu plus solaires, ça donne des vins accessibles. Mais ça n'empêche pas la garde. Effectivement, c'est une très bonne suggestion d'évoquer ces vieux millésimes. J'ai même goûté des 2005, alors, qui était un millésime aussi assez intéressant, et même des 2003, qui, malgré son côté solaire sur le papier, a donné des vins finalement avec une réserve d'acidité qui n'est pas inintéressante, parce qu'il y a eu des blocages de maturité qui ont fait que quelque part, on a ces acidités qui sont assez marquantes.
Quelques vignerons, indépendamment de
vous. Oui, quelques maisons. J'ai goûté chez Bouchard une très jolie cuvée. La maison Louis Latour récemment aussi, dans un style qui est très fidèle à ce qu'ils font en général. Albert Bichot. qui était une des maisons dont on parle beaucoup, notamment au moment de la vente des vins des hospices, que c'est le plus gros acheteur des hospices de Beaune. La maison Joseph Drouin, et puis dans les petits producteurs, le domaine Guy Didier, par exemple, qui fait des vins assez remarquables dans ce style de vin.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci également à vous, Hélène Piau, Laure Gasparotto et David de Cobold. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook. On se donne rendez-vous samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en direct de chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio. Grande modération et puis surtout, bonne année. On vous aime.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.